Bonjour à toutes et à tous pour cette chronique du 7 juin. Je vous emmène en Afrique avec un point sur la situation au Mali, où le second coup d'État a poussé la France à stopper la collaboration anti-djihadiste avec l'armée malienne. Le Burkina Faso en deuil après une attaque dans le nord-est du pays qui a fait 160 morts chez les civils. Au Nigeria, la mort du chef de Boko Haram a été officialisée. Au Moyen-Orient, Israël est en passe de tourner la page Netanyahou. En Biélorussie, l'inquiétude est vive. Après la nouvelle vidéo de l'opposant Roman Protasevich, les États-Unis et le Japon promettent d'aider Taïwan face à la Covid-19. Au Pérou, la droite populiste menée par Keiko Fujimori donnée gagnante de la présidentielle. En Allemagne, la CDU d'Angela Merkel bat l'extrême droite en Saxe-Anhalt. En France, 4 législatives partielles avaient lieu ce week-end. Le parquet national financier ouvre une enquête contre le gouverneur de la Banque du Liban. La cour d'assises condamne en appel deux ex-Skinhead. 8 ans, presque jour pour jour, après la mort de Clément Méric. En sport, les scénarios fous des Grands Prix de F1 en moto, des Grands Prix F1 et moto à Bakou et à Barcelone, le point Roland-Garros à la débandade côté français. Et pour conclure, le dénouement des saisons de Top 14 et de Pro D2, c'est du rugby. Bonne écoute. Une semaine après le nouveau coup d'État orchestré par le colonel Assimi Goïta, la France a annoncé jeudi la suspension d'un titre conservatoire des opérations conjointes avec les forces maliennes. Une semaine après le nouveau coup d'État orchestré par le colonel Assimi Goïta, la France a annoncé jeudi la suspension d'un titre conservatoire des opérations conjointes avec les forces maliennes. L'opération Barkhane se poursuit malgré tout, 7 ans après son lancement le 1er août 2014. Le nord-est du Burkina Faso a été frappé par plusieurs attaques djihadistes dans le nord-est du pays dans la nuit de vendredi à samedi. La localité la plus touchée, Solane, est le chef-lieu du département du même nom. Elle se trouve à proximité de la frontière avec le Niger. Le bilan officiel fait état de 160 morts, soit le bilan le plus lourd depuis le début des attaques djihadistes en 2015. Les autorités locales ont décrété 72 heures de deuil national. Au Nigeria, la mort du leader du groupe terroriste Boko Haram a été confirmé par un groupe ennemi. Le Nigérian Aboubakar Shekau, 48 ans, s'est suicidé pour éviter d'être capturé par les partisans du groupe djihadiste de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, proche de Daesh. Les deux groupes djihadistes rivaux se livrent un combat sans merci pour le contrôle du fief de Boko Haram, situé dans la forêt de Sambisa, à l'est du pays, à proximité du Cameroun et du Tchad. Le groupe terroriste, né sous la forme d'une secte islamiste en 2002, avait lancé en 2009 une insurrection armée. Il s'était fait connaître du grand public après l'enlèvement de 276 lycéennes à Chibok, une île voisine de leur camp de base. Une centaine de jeunes filles sont toujours portées disparues. Au Moyen-Orient, Israël va sans doute tourner une page après plusieurs mois de crise politique caractérisée par l'incapacité du Premier ministre Benjamin Netanyahou à former un gouvernement malgré 4 victoires électorales en 2 ans. Une coalition anti-Netanyahou a vu le jour. Elle est menée par le centriste Yair Lapid, 57 ans, fils de l'ancien membre de la Knesset, le parlement israélien Tommy Lapid. Selon plusieurs journaux israéliens, les 120 députés devraient se prononcer la semaine prochaine pour accorder leur confiance ou non au gouvernement. En cas de victoire, ce serait la fin de 12 ans de pouvoir consécutif de Bibi, qui devrait alors faire face à la justice dans 3 affaires de corruption. En Biélorussie, l'état de santé de l'opposant Roman Protasevich inquiète après la diffusion d'une vidéo où le journaliste et opposant de 26 ans est passé aux aveux. Arrêté après le détournement de son vol entre Athènes et Vilnius le 23 mai, le journaliste y admet avoir appelé à des manifestations après la réélection truquée d'Alexandre Loukachenko en août 2020. Il dit également vouloir mener une vie tranquille loin de la politique et se racheter de ses erreurs. L'opposition biélorusse et plusieurs chancelleries ont dénoncé les aveux obtenus sous la torture, alors que des marques de blessures sont visibles sur le visage et les poignets de l'opposant, qui fond en larmes à la fin de la séquence diffusée par la télévision d'État biélorusse. 3 élus du Sénat américain ont atterri ce dimanche 6 juin à Taïwan à bord d'un avion militaire dans le cadre de visites officielles. Alors que la Maison-Blanche a rompu tout lien diplomatique avec l'île en 1979 au profit de la Chine communiste, Joe Biden a décidé de fournir près de 750 000 doses de vaccins anti-Covid. Le Japon a également annoncé le don de 1,24 million de doses. Taïwan accuse la République populaire de Chine d'entraver l'approvisionnement du territoire qu'elle revendique depuis la fin de la guerre civile en 1949 et la fuite des nationalistes de Chiang Kai-shek. Peuplée de 23,5 millions d'habitants, Taïwan a reçu au moins 900 000 doses de vaccins et fait face à une flambée inédite du nombre de cas, avec 11 298 cas déclarés ce dimanche 6 juin, contre 1682 le 15 mai, soit une augmentation de 671% en 3 semaines. Au Pérou, Keiko Fujimori, fille de l'ancien président Alberto Fujimori, est annoncée en tête de l'élection présidentielle au Pérou. La candidate de la droite populiste recueillerait 51,52% des voix contre 48,48% pour son adversaire de la gauche radicale Pedro Castillo. Le vote a eu lieu ce dimanche, mais seuls 80% des bureaux de vote avaient été décomptés. Le résultat officiel sera connu dans le courant de la semaine. Les deux candidats et le président par intérim, Francisco Sagasti, ont appelé au respect des résultats. La passation de pouvoir aura lieu le 28 juillet, jour du bicentenaire de l'indépendance du pays. Quelques mois avant de quitter le pouvoir, la chancelière allemande Angela Merkel a vu son parti, la CDU, Union des chrétiens démocrates, remporter une victoire électorale face au parti d'extrême droite Alternative für Deutschland. La droite a conservé le Land de Saxe-Anhalt, dont la capitale Magdebourg se trouve à 150 km à l'ouest de Berlin. Ils obtiennent 37% des suffrages en hausse de 6 points, contre 21% à l'AFD. Il s'agissait du dernier scrutin régional avant les élections fédérales du 26 septembre, qui désigneront le remplaçant d'Angela Merkel au pouvoir depuis le 22 novembre 2005. La France organisait également 4 législatives partielles à 11 mois de l'élection présidentielle. La majorité présidentielle a sauvé un siège dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, grâce à la victoire de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, auprès du ministre de la Santé Olivier Véran. L'ancienne élue socialiste a battu le Rassemblement national avec 62,1% des suffrages exprimés. Dans l'Oise, les Républicains conservent le siège d'Olivier Dassault, mort le 7 mars, grâce à la victoire de son neveu, Victor Habert Dassault, également vainqueur du Rassemblement national avec 80,41% des suffrages exprimés. À Paris, le duel a été serré entre la socialiste Lamia El Haraj et l'insoumise Danielle Simonet dans le 20e arrondissement de la capitale. C'est la première qu'il a emporté avec 56,6% des suffrages, conservant ainsi la seule circonscription parisienne de l'ancien parti présidentiel. Enfin, l'UDI Sophie Métadier, maire de Beaulieu-les-Loches en Indre-et-Loire, a battu son adversaire socialiste avec 62,9% des voix. Ces quatre élections ont été marquées par des taux d'abstention compris entre 76 et 83%. Le gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salameh, fait l'objet d'une enquête du parquet national financier pour des soupçons d'association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée. L'homme de 70 ans, en poste depuis 1993, est également visé par une enquête en Suisse concernant son patrimoine immobilier en Europe et estimé à 2 milliards de dollars selon les associations anticorruption à l'origine des signalements. Des accusations démenties par l'intéressé qui dit avoir constitué son patrimoine à la suite d'un héritage. 8 ans presque jour pour jour après la mort du militant antifasciste Clément Méric à Paris le 6 juin 2013, ses bourreaux présumés étaient jugés en appel ces deux dernières semaines devant la cour d'assises de l'Essonne à Évry. Et désormais ex-Kined Esteban Morillo et Samuel Dufour ont été condamnés à des peines de 8 et 5 ans d'emprisonnement, des peines moins lourdes qu'en première instance, les deux hommes avaient écopé de 7 et 11 ans en septembre 2018. Comme d'habitude, pour terminer cette chronique, un mot de sport avec le dénouement fantastique du Grand Prix de Formule 1 à Bakou, en Azerbaïdjan. Le pilote mexicain de Red Bull, Sergio Pérez, a remporté son deuxième succès dans la catégorie Rennes. Il devance l'Allemand d'Aston Martin, Sébastien Vettel, dont le dernier podium remontait au 15 novembre 2020 en Turquie. Le troisième homme du podium est le français Pierre Gasly sur AlphaTauri. Une course marquée par les contre-performances des Mercedes de Valtteri Bottas, 12e, et de Lewis Hamilton, 15e, après avoir tiré tout droit lors du deuxième départ lancé à deux tours de la fin. Le responsable de l'arrêt de la course étant le néerlandais de Red Bull Max Verstappen, sorti violemment de la piste après l'éclatement d'un pneu arrière, il était alors leader. Une mésaventure commune au Canadien d'Aston Martin, Lance Stroll, Esteban Ocon a lui aussi été victime d'une casse moteur après 4 tours. Tout ce petit monde aura l'occasion de se racheter dans 2 semaines lors du Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard au Castellet du 18 au 20 juin. En moto, le Grand Prix de Catalogne à Barcelone a sacré le Portugais de KTM Miguel Oliveira. Il devance sur la ligne les Français Joan Zarco et Fabio Quartararo. Ce dernier a été rétrogradé au 6e rang au profit de l'Australien Jack Miller. La combinaison du français s'étant ouverte dans les derniers tours de course, laissant échapper la protection ventrale. Il s'en est heureusement tiré sans chute et pourra tenter de prendre sa revanche le 20 juin en Allemagne sur le mythique Sachsenring. Roland-Garros a été le théâtre d'une débandade historique du tennis français. Aucun français, dame et homme confondus, n'est parvenu à se qualifier pour la deuxième semaine de compétition. Côté homme, Richard Gasquet a concédé une 17e défaite consécutive contre Rafael Nadal au deuxième tour. Gaël Monfils a laissé passer sa chance contre le Suédois Mikael Immer, 105e mondial. Côté dame, Fiona Ferro s'est inclinée au deuxième tour contre l'américaine Jennifer Brady, 14e mondial. Pour le reste du champ de joueuses, il y aura une finaliste inédite en Grand Chelem après l'élimination de Serena Williams par la Kazakh Elena Rybakina ce dimanche. La 22e joueuse mondiale jouera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 32e en quart de finale ce mardi. Rugby pour terminer avec le dénouement de la saison régulière de Top 14 et le nom d'un des deux promus en Top 14. Toulouse et La Rochelle ont validé leur ticket pour les demi-finales qui auront lieu le 18 et 19 juin au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. En attendant, la semaine prochaine auront lieu les matchs de barrage pour connaître l'adversaire des Toulousains et des Rochelais. Nous aurons le droit à un derby entre le Racing 92 et le Stade Français Paris le 11 juin à 20h45. Le vainqueur défiera La Rochelle. Toulouse attend le vainqueur du duel entre l'Union Bordeaux-Bègles et Clermont-Ferrand le lendemain à la même heure. A noter qu'en Pro D2, Perpignan retrouve l'élite après son succès en finale contre Biarritz 33 à 14. Les Basques tenteront de ravir le deuxième ticket en passant par le barrage d'accession ce samedi à 17h30 dans leur stade d'Aquilera. Leur adversaire sera l'Aviron Bayonnais, 13e et avant-dernier de Top 14, battu par le Stade Français à domicile 12 à 9. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et rendez-vous lundi prochain. Au revoir.